Salut les joueuses, salut les joueurs, nous sommes en février 2026 et vous écoutez une interview de ProxyJeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. ProxyJeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Peter et je suis accompagné de Cyrus. Bonjour Cyrus.
Salut Peter.
Comment vas-tu?
Bah toujours très bien.
Génial. Oh, super. Et nous accueillons pour cette interview Nathalie Héninger et David Sainte-Cluc. Bonjour.
Salut.
À vous.
Salut.
Salut.
Vous allez bien?
Ouais, ça va bien.
On est en pleine forme.
Ah bah super.
Super.
On est encore au début du salon. Hein.
Ouais, ça, c'est pour ça que ça va bien encore.
Donc
ouais.
Nathalie et David de Kiwizu, qui est un éditeur de jeux pour enfants.
C'est ça.
Ouais.
Bravo.
Vous êtes tous les deux les deux fondateurs.
On est les deux fondateurs et on est à 100% de l'équipe, en fait. Parce qu'on a une grande équipe de deux.
Quelle chance avons-nous?
Eh ben, c'est bien. Il y a des équipes de un, hein.
Ouais.
On n'en croise pas, on a pas mal des équipes de un, l'air de rien. Ok. Ben, écoutez, on va vous proposer pour commencer de vous soumettre au fil rouge de cette édition 2026.
Alors, le fil rouge 2026 est une série de questions en mode portrait chinois. Et je commence par la première question. Alors, comme vous êtes deux, vous pouvez tous les deux donner une réponse différente. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse.
Wow.
Donc, on va commencer par vous accorder sur lequel de vous deux répond en premier, peu importe. Hein.
Nathalie, évidemment.
Voilà. Donc, si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu?
Un stop ou encore?
Très bien, et David?
Placement de tuiles.
Ok. Une raison particulière?
Non, mais en fait, ça, c'est aussi par phase, et en ce moment, c'est, voilà.
Un truc que t'aimes bien.
Je suis en plein dans Viva Caterina. J'adore le jeu, puis plein d'autres jeux de placement de tuiles.
Et, toi, Nathalie, une raison particulière? T'es team encore, je suis sûr.
Ouais.
J'en étais sûr. Les gens qui aiment le stop ou encore, ouais. Ils sont dans la team encore.
Ouais. J'aime bien les jeux où il y a un peu de risque et, ouais. J'aime bien tous les jeux, en fait.
Et les enfants échouinent pas trop sur le stop ou encore?
Les enfants sont team encore, mais tout le temps. Il faut un gros paquet d'échecs avant qu'ils réussissent à comprendre que potentiellement ils peuvent stopper. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que je suis pas encore arrivée au maximum d'échecs pour pouvoir comprendre qu'il fallait que je m'arrête.
Alors, et si vous étiez un thème de jeu?
Ah bah des animaux.
Ok. Et toi, David?
Ah, j'aime bien tout ce qui est autour de la magie, un peu de la fantasy. Donc, magie, ouais. Allez, magie.
D'accord, ok.
Les animaux fantastiques.
Voilà.
Déjà pris, ça fait un bon combo.
On combat tout ça.
Et si vous étiez un élément de jeu?
Un dé.
À combien de faces?
6, très traditionnel.
Classique.
Mmh. Allez, je fais un petit clin d'œil à un jeu que j'aime bien, mais ouais, le D6, mais le D6 de Binding of Isaac. Voilà, pour une petite référence.
Ah, je connais le jeu vidéo, mais pas le jeu de société.
Il y a le jeu de société qui existe. Je faisais le clin d'œil au jeu vidéo.
Ah, au jeu vidéo.
Ouais, ouais. Il y a le jeu de société qui existe.
Oui, c'est pour ça, ouais. D'accord, mais, c'est par rapport à celui du jeu vidéo.
Voilà.
Ok, d'accord.
Comme c'est un élément marquant d'un jeu qui m'a marqué aussi.
Ouais. Il existe probablement aussi dans le jeu de société, je sais pas.
Ouais, alors il y a la carte, en tout cas.
Ah, d'accord.
Il y a la carte du dé.
Okay. Ah, tu prends 6 cartes, ça fait un D6, hein. Tu les mélanges et t'es en piochine.
Et si vous étiez un jeu?
Oh punaise, ça aussi c'est dur. Si j'étais un jeu pour moi, actuellement, je serais Faraway.
T'as envie de refaire ta vie à l'envers? Une fois que tu l'auras accompli,
c'est ça? J'avais pas vu, c'est hyper bizarre du coup.
Oui, c'est ça. Pourquoi choisir
non,
Faraway?
Non, c'est juste parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup en ce moment.
Ah d'accord, oui, c'est par rapport à un jeu qui te plaît.
Ouais.
Mais tu réfléchiras quand même à ça.
Eh oui,
si j'étais toi-même un jeu. Si j'étais moi-même un jeu. Perudo.
D'accord.
Elle bluffe.
Si j'étais un jeu, bonne question. Je vais parler d'un de nos jeux. Trésoro, qui a un thème sur la Bretagne. Et comme voilà, j'ai une passion aussi pour cette région. Ça fait bien le lien en tout cas pour moi. Voilà.
Ok.
J'adore cette région.
Ça t'a gagné.
Ouais.
Un coin préféré de Bretagne.
Ouais. Mes parents sont du Morbihan vers Auray. Voilà, pas loin d'Auray.
On n'a pas dit qu'on laissait jamais parler les gens de Bretagne, parce que les gens qui parlent de Bretagne, ils ont toujours plein de trucs à raconter et à la fin on s'en sort pas.
Ah non, je connaissais pas cette directive.
Tu connais pas cette règle?
Ah non. Okay. Non, non.
Maintenant, tu la connais.
Je connais pas bien le règlement intérieur de ProxyJeux encore.
Bon, très bien. Mais merci à vous déjà pour ces premières réponses à ces premières questions qui, je crois, ont détendu l'atmosphère, non?
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous présenter Kiwizoo? Qu'est-ce que c'est que cette société d'édition?
Alors, Kiwizoo, c'est une toute jeune maison d'édition. On a commencé, nos premiers jeux sont sortis pour Cannes l'année dernière. Et le principe de Kiwizoo, c'est de proposer des jeux pour les petits. Donc, c'est vraiment pour les enfants de 3 à 6 ans. Et ce qu'on a voulu faire avec David pour cette maison d'édition, c'était de proposer des jeux pour des enfants, pour tous les enfants. Ça veut dire que, bon, à 3 ans, a priori, t'es jamais un gros gamer, hein. Mais en tout cas, tu peux venir d'une famille où ça joue beaucoup, et donc t'es stimulé par voir peut-être éventuellement tes parents jouer, ou tes frères et sœurs aussi. Et où tu peux venir aussi d'une famille où le jeu est totalement absent, et où on ne joue pas du tout. Et nous, on voulait que les jeux Kiwizoo, ils soient jouables pour tout le monde. Que tu sois issu d'une famille où ça joue beaucoup ou que tu sois issu d'une famille où ça ne joue jamais. Et donc pour ça, on est allé chercher des auteurs de jeux qui étaient top, qui ont fait des jeux top. Et la particularité des jeux Kiwizoo, c'est qu'ils soient faciles d'accès, rapides, faciles d'accès et adaptés vraiment à la tranche d'âge à laquelle ils sont destinés. Ça, pour nous aussi, c'était hyper important de faire tester les jeux. Nous, on pouvait avoir des coups de cœur sur des jeux, mais on les a tous fait tester en école. Et le côté école est hyper important parce que justement, t'as ce public d'enfants qui peut être joueur mais qui peut ne pas l'être du tout, et donc t'as tous ces enfants qui sont différents, et le fait de tester en école, tu vas vraiment voir si la mécanique que tu proposes, elle est adaptée à la tranche d'âge à laquelle tu la destines. Donc ça, c'était hyper important pour nous. On a passé beaucoup de temps dans les écoles, on a fait beaucoup de câlins, on a chopé plein de rhumes. mais ça, c'était hyper important pour que on valide que les jeux qu'on allait développer, qu'on allait éditer, ils étaient vraiment faits pour tout le monde et qu'ils étaient adaptés à tout le monde. Voilà, la deuxième particularité l'autre particularité de Kiwizoo, c'est que quand on a choisi les illustrateurs pour designer nos produits, on est allé chercher des illustrateurs qui étaient plutôt des illustrateurs de jeunesse, parce que pour nous c'était important à cette tranche d'âge-là de continuer à faire le lien entre les albums qu'ils peuvent avoir dans les mains, les livres qu'ils peuvent avoir dans les mains et les illustrations qu'ils ont, et retrouver ces illustrations-là dans les jeux. C'était aussi important pour nous de pouvoir proposer des jeux qui vont raconter des histoires. Donc la thématique du jeu était importante, l'histoire que raconte le jeu est importante, autant que la mécanique et le matériel en fait. Il fallait que quand tu ouvres ta boîte de jeux Kiwizoo, ben hop, tu te transportes dans un univers qui est celui du jeu. Et voilà, donc ça, voilà. C'était pas très résumé, mais c'est à peu près ce qu'on a essayé de faire.
Alors moi, en tant qu'adulte, j'ai exactement le même besoin, hein, je te rassure.
Et alors, pourquoi avoir créé, du coup, une société spécifiquement de jeux pour enfants? Ça vous vient d'où, ça?
Ça vient d'une passion, déjà, qu'on a pour cette catégorie de jeux. Ça vient aussi de notre expérience, parce qu'avec avec Nathalie, ça fait 50 ans à tous les deux qu'on est dans l'industrie du jeu et jouet, et on est encore jeunes. Et donc c'est aussi ce qu'on sait faire, ce qu'on sait développer, éditer, et, pour répéter un peu ce que je disais, la passion qu'on a. Donc voilà, on s'est mis là-dessus. On est, je pense, à même de développer cette catégorie de jeux. On serait, ce serait plus compliqué pour nous d'aller sur des jeux. Expert, alors là, on parle pas, même initié, je suis pas sûr qu'on aurait, voilà, encore une légitimité là-dedans, ou même si on les aime beaucoup à titre personnel, en termes d'édition, c'est pas ce qui nous transporte pour l'instant. Je dis pas que ça peut pas évoluer, parce que plus on, voilà, maintenant Kiwizoo existe depuis un an, on rencontre plein d'auteurs, et puis parfois on nous propose des jeux qui sont incroyables et qui sont pas tout à fait destinés à Kiwizoo, donc on les on les déporte vers d'autres éditions, et puis parfois on se dit ah bah c'est dommage quand même, celui-là on aurait pu faire quelque chose de bien, même si c'est pas tout à fait du 3-6 ans. Mais voilà, pour l'instant c'est le 3-6 ans qui nous transporte et qui nous plaît, c'est notre passion.
Si
voilà.
Je comprends bien, c'est à la fois une envie personnelle, une appétence et aussi une histoire de compétence. Vous vous sentez pas compétent pour développer des jeux au-delà de 6 ans?
Ben on avait ce savoir-faire et l'un et l'autre sur les jeux enfants de toute façon de par nos expériences passées.
Vous et avez travaillé où pardon du coup parce que
alors à tous les deux avant on travaillait dans une entreprise qui s'appelle Jeco qui est une belle entreprise française qui fait qui fait tout un tas de produits pour enfants, des jeux, des jeux en bois, des puzzles, du jeu de société, du loisir créatif, de la décoration, enfin tout un tas de choses. Et donc voilà, mais plus spécifiquement, on travaillait notamment sur les jeux de société. Donc on a ce savoir-faire là et aussi cette envie de rester là-dedans dans ce milieu-là parce qu'aussi c'est important de proposer des jeux pour les petits si on veut avoir derrière des joueurs. Il faut bien commencer à un moment donné et on peut pas commencer par un Colon de Catane. Donc il faut commencer par quelque chose qui est doux. Il faut respecter la et c'est aussi important pour nous. C'était aussi important de proposer quelque chose qui va respecter la tranche d'âge, que ce soit dans les illustrations, mais aussi dans le gameplay. Et un enfant de 3 ans, il sait pas faire 40 choix, et c'est normal, et tant mieux. Et ça sert à rien de le pousser à vouloir faire 40 choix. Il a le temps, d'apprendre ces mécaniques-là.
Et dans la gamme Kiwizu, il y a des jeux pour 3 ans, des jeux pour 4 ans, des jeux pour 5 ans, des jeux pour 6 ans, ou c'est tous les jeux entre 3 et 6 ans, comment ça se passe?
Non, on a des jeux pour à partir de 3 ans, à partir de 4 ans, à partir de 5 ans et à partir de 6 ans. Donc chaque jeu est étudié pour l'âge que l'on a ciblé, à la fois en termes de mécanique, de nombre de contraintes, de temps de jeu, d'illustration. Donc ça a été beaucoup beaucoup de travail pour cibler et être respecté l'âge, et comme l'a dit Nathalie, que ce soit pour des enfants stimulés par le jeu ou pas du tout. Et quand on fait des jeux à partir de 5 ans ou 6 ans et plus, c'est des jeux à la fois qui peuvent être joués par des enfants de 6 ans, mais qui vont aussi être très amusants en famille. Je pense on a Peak Challenge, on a Potion Express, où on a même croisé des joueurs qui jouaient à Potion Express entre eux sans enfants, et ça plaisait tout autant. Mais il faut que notre jeu s'adapte bien à la tranche d'âge, c'est notre primo critère.
D'accord. Et cet âge-là, il est choisi. C'est une question qu'on pose régulièrement aux éditeurs et aux auteurs. C'est plutôt l'auteur qui va vous proposer une tranche d'âge, ou c'est plutôt vous, un peu les spécialistes du jeu enfant, qui allez dire à l'auteur ou à l'autrice, ce jeu-là, nous, on le classe, on voit très bien, on connaît mieux le marché. Ça va être plutôt un jeu 4 ans et plus, par exemple.
Alors, ça va vraiment dépendre des auteurs et des autrices. Il y a des auteurs qui calent hyper bien leur tranche d'âge nous par ailleurs ça nous empêche pas de valider la tranche d'âge, et quand on va tester nos jeux on va tester avec des classes dont de la tranche d'âge qui est proposée par l'auteur. Après ça nous empêche pas aussi de dire nous on pense que c'est un peu c'était un peu ambitieux et c'est pas un jeu 4+, mais c'est plutôt un jeu 5+. Ou à l'inverse, nous on pense que c'est jouable un peu en dessous. Donc ça nous empêche pas d'avoir une discussion avec l'auteur et de réajuster les tranches d'âge. Après il y a d'autres auteurs qui sont qui disent pour moi c'est un jeu de telle tranche d'âge là, mais testez-le aussi de votre côté pour voir.
Vous parlez depuis tout à l'heure de tranches d'âge, mais sur vos jeux c'est plutôt indiqué 3 et plus, 4 et plus, vous faites pas... J'ai vu par exemple chez Space Co, ils ont un système de baromètre, j'appellerais ça, pour dire ok, ça c'est vraiment ciblé 6 ans, ça passe un peu à 5 ans et 7 plus.
Ça a été une très longue réflexion de savoir ce qu'on devait faire et comment le faire. Nous on a pris le parti de mettre l'âge de départ.
Ouais.
En se disant que l'âge de départ est, avec notre certitude en tout cas, que ça allait convenir à l'âge qu'on avait ciblé, et potentiellement, et évidemment, on a des Forest First, on a des enfants de 4 ans qui jouent, qui s'amusent tout autant, et voilà. Par contre, on n'a pas mis de limite, on n'a pas mis de limite d'âge.
De limite haute, quoi.
Non, pas on n'a pas mis de limite haute d'âge.
Okay. Voilà. Est-ce que t'es testé quand même avec des adultes pour savoir si le jeu est quand même plaisant pour des adultes ou si c'est vraiment barbant?
En fait, dans le processus de sélection dont on a parlé, on reçoit les prototypes, on va en école. C'est d'abord le premier crash test, donc ça limite parfois des jeux pour lesquels nous on a un coup de cœur. Là, ça, on ressort avec les jeux qui ont le plus plu aux enfants finalement. Donc c'est un peu les enfants des écoles qu'on fait la sélection des jeux Kiwizoo. Et voilà, on les remercie encore. On a travaillé avec deux écoles qui sont autour de chez nous. Mais une fois que le jeu a été sélectionné en école, on fait un deuxième planning de test en famille. Donc là, on va rencontrer des familles qui aussi, on cherche des familles qui ont l'âge cible. Et là, on fait jouer la famille avec les enfants et on attend à la fois les retours des enfants d'abord, mais aussi on recherche le retour des parents pour voir si ça leur plaît, si le jeu voilà enthousiasmait leur enfant, mais voilà
et eux aussi
voilà.
Donc, en école physiquement, enfin concrètement, ça se passe comment les gamins, vous leur demandez comme ça à l'oral ou ils ont un petit panneau, ils votent, c'est l'école des fans, c'est comment ça se passe?
L'avantage d'un petit loup de 3 ou de 4 ans, c'est que il a pas forcément besoin d'exprimer s'il a aimé ou pas aimé. S'il a pas aimé ton jeu, il va se barrer. Et voilà. Et donc voilà, t'as ta réponse, assez claire. Et s'il a aimé, il va te demander d'y rejouer, et puis d'y rejouer, et puis d'y rejouer, et puis à un moment donné, tu veux dire mais j'en ai d'autres à tester. Bah non, c'est celui-là que je veux jouer. Ok, bon, a priori t'as aimé celui-là. Donc c'est voilà, ils ont t'as moins besoin de chercher absolument à savoir si verbalement il l'a aimé ou pas. Et dans son attitude, il va le dire. Après, on fait toujours un petit débrief en fin de session avec tous les enfants, c'est toujours très minou d'ailleurs, où on va leur demander quel jeu ils ont préféré. Alors bien sûr, t'as toujours un petit loup qui va répondre comme son copain, ou qui va aimer celui sur lequel il a gagné et détester celui sur lequel il a perdu. Mais globalement, tu le sens dans l'attitude sur la table au moment où on fait les jeux. Quand on va en école, on a des groupes de 4 élèves avec nous, donc c'est super parce que avec les instits, on se fait des sessions d'une heure ou d'une heure et demie, et les instits à côté de ça, ils prévoient des ateliers. Donc en fait, les enfants tournent sur nos stands de jeux de société, et donc on voit toute la classe, et il y a un vrai temps, il y a un vrai moment pour chaque groupe de tester, de donner leur avis. Tu leur poses des questions, voilà, ils veulent rejouer, c'est plutôt bon signe. Ils se lèvent, ils s'en vont pour aller coller des gommettes. C'est que ils ont pas aimé, quoi.
Et comment on fait pour organiser concrètement des ateliers comme ça avec des écoles?
On les appelle.
Puis il y a pas de barrière, il y a pas de contrainte particulière au niveau de l'éducation nationale, au niveau de...
Non, il y a un registre qu'on signe à l'entrée, mais en fait les enseignants enseignantes sont très demandeurs de ce type d'atelier. Donc non, c'est assez simple. Tant que c'est organisé, on prend aucune photo pendant la session. Les enseignants, eux, en prennent pour des diffusions internes. Donc c'est la seule contrainte qu'on ait, c'est de pas pouvoir parfois prendre une photo pour notre mémoire et pour se dire tiens, c'était un moment mignon, charmant et de jeu. Mais sinon, il y a aucun problème. Les écoles sont très ouvertes. Il y a pas de souci avec ça.
Et il y a pas de rémunération d'un côté ou de l'autre?
Ah bah non. Non. Non, il y a pas de rémunération parce que on laisse rien en fait. Quand on fait tester, alors, ce qui est peut-être le plus compliqué des fois, c'est quand on a des protos qui sont un peu limites ou qu'on a des print and play qu'on a fait nous-mêmes, il faut essayer de travailler un peu les choses qu'on va apporter parce que ils sont quand même hyper sensible à ça aussi les loulous voilà, autant un adulte va pouvoir tester un jeu en noir et blanc et essayer de se projeter, autant un petit pas forcément. Donc il faut bosser, c'est un peu ces protos avant d'y aller. Mais non, il y a pas de rémunération, c'est pour la rémunération pour nous, elle est du fait que on a des tests et c'est c'est hyper intéressant pour nous et c'est vital en tout cas pour notre sélection et pour l'école, c'est un moment enfin j'imagine hein, je suis pas un stit mais j'imagine que pour eux c'est aussi un atelier qui est différent, qui propose à des enfants qui ont pas forcément l'habitude de jouer, donc c'est voilà, c'est une richesse aussi pour leur semaine qui est intéressante.
Est-ce qu'ils essaient de mettre ça en lien avec le programme ? Parce que je sais qu'il y a des compétences qu'on peut comme ça faire travailler avec certains jeux. Non, ils se mettent pas en relation avec vous pour dire ce jeu-là, ok, ouais,
non.
C'est cool, ça va faire travailler telle compétence.
Non, ça serait peut-être plus si on devait apporter des échantillons maintenant qui sont terminés, que maintenant que les jeux sont faits, peut-être que voilà, on pourrait travailler sur ces jeux-là avec les instits et les enseignants. Elle dit voilà, bah peut-être ce jeu il peut vous aider. Ça serait plus maintenant. Sur le coup, ce qui est hyper intéressant aussi avec aller faire ces tests en école, c'est que t'as accès aux enseignants et les enseignants ils te voient jouer avec les enfants, ils voient le jeu et en fait eux aussi peuvent être hyper intéressants parce qu'ils vont te dire bah ça là ce que tu lui demandes de faire, le choix que tu lui demandes de faire, il est pas capable, il est pas en mesure de le faire parce que bah c'est pas encore rentré dans ses acquisitions et ça fait partie de quelque chose qu'il va apprendre plutôt dans un ou deux ans. Donc c'est hyper intéressant aussi de pouvoir avoir cette conversation là avec les enseignants pour vous dire ok, est-ce que les compétences que demande le jeu, est-ce que l'enfant de cet âge là il l'a ou pas. Alors après, tout dépend. Bien sûr, il y a des enfants qui ont des compétences bien avant les autres, et puis d'autres qui les auront bien après les autres. Mais globalement, un enseignant, il est capable de dire à 7, ce qui est demandé comme compétence à un enfant de cet âge-là, c'est ça. Et ce que tu lui demandes là, c'est pas possible, ou ce que tu lui demandes là, bien sûr qu'il l'a déjà acquis depuis longtemps.
Ils ont presque des conseils à vous donner sur certains calages de jeu, quoi, finalement. Bon ou mauvais, mais
ouais, bien sûr,
ils ont leur avis aussi, quoi.
C'est toujours hyper pertinent. Donc, pour nous, ces tests, c'est merveilleux, c'est épuisant. on a un grand respect pour le corps enseignant, hein, parce que quand on a fait une demi-journée, quand on fait une demi-journée toute la semaine dans une école, on ressort, on est un peu lessivé. Hein, c'est un peu comme une semaine de salon. Mais à la fois c'est tellement enrichissant et c'est du bonheur, donc on enlèvera ça pour rien au monde.
Et est-ce qu'il y a des structures après qui sont parmi vos clients finaux qui peuvent vous acheter carrément des jeux pour les mettre à disposition, pour les utiliser dans les écoles maternelles? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'on vous le demande des fois si
Alors nous par c'est une question qu'il faudra demander à notre distributeur, mais oui, on sait qu'il y a des distributeurs scolaires qui par exemple ont sélectionné Forest First, qui a été d'ailleurs nommé à l'Educaflip. Alors, nominé, je sais pas, il a pas gagné. mais il a été nommé, on était quand même sélectionné, on était hyper fiers d'être sélectionné. On a aussi des retours d'enseignants via les réseaux sociaux et c'est des retours qui nous font chaud au cœur, d'enseignants qui nous ont dit bah voilà, j'ai testé Roomy Memo avec ma classe, ça a été formidable. J'ai testé tel jeu avec un public atteint de handicap, c'était génial, ça a bien fonctionné. On a même eu un retour là récemment en EHPAD et on s'attendait pas à voir ça. Et peu importe quoi, c'est les plus beaux retours qu'on puisse avoir. C'est un peu magique en tant que nouvel éditeur d'avoir ce genre de retour.
Du coup, c'est votre distributeur qui fait ce travail-là un petit peu d'aller chercher les clients finalement qui peuvent apprécier votre jeu. Et c'est qui votre distributeur? C'est le même pour tous vos jeux?
C'est BlackRock Games. D'accord. C'est à la fois notre distributeur et à la fois, et on en profite pour les remercier, pour ceux qui écoutent, c'est tous les festivals avec lesquels on a travaillé et qui ont les bénévoles qui ont présenté nos jeux, qui sont souvent soit aussi des instituteurs, institutrices, des bénévoles, enfin voilà, des animateurs de jeux, des ludothèques qui vont récupérer nos jeux et qui vont faire des ateliers avec. Et donc voilà, merci à eux d'avoir fait vivre nos jeux cette année. Ça a été formidable. On a participé à une trentaine de festivals en France grâce à notre distributeur et grâce à ces petits festivals. Donc voilà, merci à eux.
Et pour l'étranger, c'est aussi BlackRock du coup qui
Non.
Parce que vous avez 6 langues dans vos jeux.
Ouais. aujourd'hui, on, ouais, Kim Jong-un, il est présent dans, il faudrait que David dise exactement, mais je ne sais pas combien de pays, mais beaucoup. Et effectivement, il y a la France qui est gérée par BlackRock, et après, chaque pays est géré par un distributeur différent, et à chaque fois, par contre, le distributeur a toute la collection. Okay. On n'a pas voulu, alors, ça viendra peut-être plus tard, j'en sais rien, mais c'est pas notre volonté. On n'a pas voulu qu'un distributeur prenne un jeu, puis en donner un autre à un autre. Voilà. On prend la gamme parce que la gamme, elle est cohérente. Enfin, nous, on trouve que la gamme, elle est cohérente et que du coup, c'est intéressant de proposer la gamme en entier et pas juste un jeu sorti de nulle part. Donc voilà.
D'accord. Et du coup, et vous touchez quel réseau, donc l'hyperspace, j'imagine, donc les boutiques vous connaissez.
C'est assez assez vaste, Fnac, voilà. Nos principaux clients, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais nos principaux clients et notre principal grand compte, c'est les boutiques indépendantes.
Donc, OK.
C'est notre grand compte pour nous, c'est le magasin Spé, que ce soit Spé jeu, Spé jouet ou libraire. Voilà, ça représente, je sais pas, 70, probablement même plus, 80% de nos clients. Après, évidemment, oui, Cultura fait partie de nos clients grâce à BlackRock. On est très content d'être chez Cultura. On est en GSS chez Jouet Club et on est très content aussi. Voilà, mais c'est principalement des clients indépendants et GSS.
Ok. Tu parlais de librairie.
Librairie, ouais, il y a. Ouais.
Il y a des bons débouchés, peut-être plus dans les jeux pour enfants.
Alors, pour les jeux pour enfants, mais ça se développe aussi pour les jeux famille initiés, je dirais. Il y a peut-être moins de librairies qui va se pencher sur le côté expert. Mais nous, on a un lien très fort avec l'illustration jeunesse. Mmh. On a travaillé avec des illustrateurs qui vont être reconnus assez facilement par les libraires. Le lien a été assez naturel pour eux pour retrouver Kiwizu. Mmh.
Voilà. Vous n'avez pas cherché à avoir des licences, par exemple, de littérature jeunesse?
Non. Non.
Non.
Non, on n'a pas cherché. Non, parce que, alors, d'abord, la licence, ça se paye, hein, voilà. Et puis, quand t'es un petit éditeur, t'as d'autres gens à payer avant de payer une licence. Voilà, moi, personnellement, je pense que David est d'accord, on préfère payer un illustrateur et un auteur plutôt que payer une licence. Et puis aussi parce que, en général, aujourd'hui, les éditeurs de livres pour enfants, ils font leurs propres jeux, hein. L'École des loisirs fait ses jeux, Gallimard fait ses jeux, ils s'y sont tous mis. Donc, du coup, aller chercher une licence de livres pour enfants, ça n'avait pas, non, puis il y a plein d'histoires différentes à raconter, il y a plein d'illustrateurs, il y a plein de jeunes illustrateurs de talent à découvrir et voilà, je trouve ça bien d'aller chercher des trucs originaux plutôt que d'aller rechercher, même si il y a des super livres aujourd'hui qui existent et des jeux avec des licences qui sont géniales, hein, mais je trouve ça bien d'aller chercher des trucs nouveaux. Ouais.
Et aussi des jeux avec des licences qui sont vraiment pas bien. Hein.
Ouais, certainement.
On peut parler du choix de votre lieu de fabrication?
Ouais, bien sûr.
Vous fabriquez en Chine, c'est ça?
Enfin, on a un mixte entre la Pologne et la Chine.
D'accord, ok.
Voilà, donc quand c'est de l'impression pure et dure, qu'il n'y a pas d'éléments en bois, donc sur nos jeux de cartes typiquement, ou sur Potion Express, ou sur, par exemple, Rumimemo, on a choisi de produire en Europe, en Pologne. Mmh. On a choisi un fabricant que tout le monde connaît. Et après, dès qu'il y a un peu de manipulation, ou de composants, là, on a choisi la Chine.
Voilà. Ok. Alors, du coup, pourquoi pas tout faire produire en Chine, dans ce cas-là? C'est pas plus simple?
Pour ce qui est de l'impression, en fait, la différence entre le coût de la... Alors, il y a une différence, hein, faut pas se le nier, entre même si on ajoute le transport, etc. Mais elle est moins forte et ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité sur nos productions, d'avoir quelque chose d'un peu plus rapide.
Ouais, c'est-à-dire que si tu produis en... C'est Pologne, t'as dit ça ?
Pologne, ouais. Pologne, ouais.
Si tu produis en Pologne, en termes de réapprovisionnement, ce sera plus court, quoi.
Ouais. Ouais, en Pologne, avec...
Toujours où t'as besoin de réimprimer...
C'est plus simple. C'est pas forcément plus évident. C'est plus simple en termes de temps de production, de transport, mais c'est pas forcément plus évident en termes de fichiers, de voilà, sur plein de sujets, de travailler avec l'Europe.
D'accord, ok. Tu veux dire que c'est même plus compliqué?
Oui.
D'accord.
Soyons clairs.
C'est bien ces négations. Ça veut tout dire.
Ouais, alors dans votre catalogue, on voit des jeux qui sont signés par des personnes qui ont fait leur preuve dans le jeu pour enfants. Hein, comme...
Non, je vois pas du tout. Alors, je vois vraiment pas qui, c'est que des nouveaux, quoi.
Ouais, voilà,
ah bah, c'est ça.
Ça
tombe bien, on a mis des exemples.
Voilà. Voilà, donc Marie et Wilfried Faure, Élodie Clément et Rivière, Marine Farouna. Bon voilà, il n'y a pas d'auteur étranger.
Pas encore.
Pas encore. Ah, un scoop peut-être.
Non.
Ah Rainer,
non, 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 non.
Je plaisante, je plaisante.
Pas encore parce que pour l'instant on a sorti 8 et 3, hein, 8 et 3.
11.
Ouais. 11, c'est lui qui tient la.
C'est lui qui fait les comptes.
Ouais, c'est écrit.
On sait qu'on n'a pas parlé répartition de tâches. Ça va se dégager tout seul.
C'est ça. Mais en fait, on est allé chercher des auteurs qu'on connaissait. On savait que c'était des pros du jeu enfant, donc on est allé chercher ces auteurs-là. Ils ont sur la première collection clairement on a démarré Cannes était passé, enfin voilà, tout un tas de choses étaient passées, donc on n'avait pas l'occasion, et puis on n'était pas connus, et puis on n'avait pas créé notre société, enfin bref. Donc on est allé chercher ces auteurs-là et on est allé taper à la porte de ceux qu'on connaissait et de ceux qu'on pensait être les meilleurs dans ce domaine-là. Donc c'était des Français. Depuis l'année dernière, je dirais que on a on est un peu plus connu, on a sorti des jeux, donc il y a plus de gens qui vont nous solliciter, plus d'auteurs qui vont nous solliciter, et dans le volume de ces nouveaux auteurs, il y a des auteurs qui sont pas forcément français, mais voilà.
Mais il y a un nombre de talents d'auteurs français qui est aussi suffisant pour avoir une palette de propositions de jeux de qualité qui est assez impressionnante, hein. Donc si on a une pépite qui est d'un auteur étranger, on sera ravi de l'éditer, mais il y a tellement d'auteurs talentueux en France que c'est aussi agréable de travailler, de faire vivre des auteurs français.
Et est-ce que faire de la localisation, ça pourrait vous intéresser? Si par exemple il y a un jeu qui vous semble super pour des petits enfants français, mais qui n'existe pas en France, et est-ce que ça vous pourriez y aller?
Je sais pas. La question s'est pas posée jusqu'à maintenant.
David s'est posé la question.
On nous a proposé. On était à Nuremberg il y a pas longtemps. Le problème de localiser un jeu qui est déjà édité à l'étranger, c'est que ça nous bloque la partie export. Et comme elle est importante pour nous,
okay,
ça représente nous c'est 50%, hein, l'export et la France. Donc on peut pas sélectionner un jeu uniquement pour le marché français, aussi important soit-il pour nous.
D'accord. Parmi vos jeux, vous aviez un petit espoir pour l'As d'Or sur les nominations de cette année? Vous aviez un petit chouchou pour
toi? Mais grave. Si t'as pas d'espoir, tu le fais pas, quoi. Donc ouais, bien. Tous, moi je comprends pas d'ailleurs. Oui, bien sûr, t'as toujours un espoir pour tous. Alors peut-être, ouais. Hein?
Il y a un jeu dans notre première collection qui avait retenu quand même. Moi, j'aimais beaucoup Forest First. Mm-hmm. Je trouvais qu'il avait quelque chose de très innovant. Et puis quand on regardait les enfants jouer, c'était assez magique, un peu comme les autres, hein, les sept autres. Mais si j'avais eu un espoir, si je dois être honnête, c'était mon chouchou.
C'est pas vrai. C'était pas ton chouchou. C'était tous tes chouchous. Parce que dès que tu présentes un jeu, tu dis, celui-là, c'est mon chouchou. Ouais, puis le jeu d'après, celui-là, c'est mon chouchou.
Là, on est jeudi 26 février, c'est son chouchou du jour.
Voilà.
Et tu peux nous le pitcher, là, en 30 secondes?
On va pas tous les faire, les jeux, mais peut-être quelques-uns comme ça. Celui-ci, du coup.
Donc, Forest First, un jeu de Marie et Wilfried Faure, à partir de 3 ans. C'est 4 animaux de la forêt qui vont faire une course pour atteindre la fin de la forêt. On va avancer en prenant des tuiles dans un sac. La tuile va donner en fait deux choix. Elle est recto verso, deux couleurs d'arbres différents. On va avancer son pion sur la couleur d'arbre qu'on va sélectionner. Donc si j'ai pris la couleur jaune, je vais aller sur le prochain arbre jaune. Le petit twist du jeu, c'est ça qui est malin et génial, c'est que tous les autres joueurs vont aussi avancer sur le prochain arbre jaune. Donc au début, les enfants regardent ce qui les intéresse et ce qui va les avantager le plus possible. Mais très rapidement, en fait, c'est un jeu qui est hyper progressif. Ils vont aussi regarder autour d'eux. Donc il va y avoir une espèce de spatialisation. Et l'autre petit truc qui est génial avec ce twist, c'est que ça, c'est un jeu compétitif, mais ça n'entraîne pas de frustration. Parce qu'en fait, les enfants là, ont l'impression de jouer à tous les tours.
D'accord.
Donc voilà, petite pépite de Marie et Wilfried Faure.
Très bien. Bon, et Nathalie, t'as le droit à ton chouchou aussi.
J'ai le droit à mon chouchou aussi, c'est hyper compliqué.
Si tu veux, tu peux lancer un dé. Hein,
Non, moi je vais parler de Baladino, parce que je l'aime beaucoup aussi. Baladino, c'est un jeu de Corentin Lebras et Jonathan Favre-Godal. C'est une course, c'est pareil comme David, c'est une course dans le parc, donc chaque joueur va manager deux personnages, et c'est ça que je trouve chouette dans le jeu. Donc tu vas avoir un enfant et un dinosaure, et donc les enfants organisent une course dans le parc, et c'est le premier qui réussira à envoyer son dinosaure au bout du parc qui aura remporté la partie. Donc pour ça, tu vas lancer un dé qui va te permettre d'avancer soit ton personnage, soit ton dinosaure. Donc tout le monde va te dire pourquoi, c'est une petite prise de risque aussi, hein, c'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Pourquoi est-ce que j'avancerais mon personnage si c'est que le dinosaure qui compte? Parce que dans le parc, il y a Billy la gardienne et qu'il y a une phase de dé avec Billy la gardienne. Et que si tu tombes sur Billy et qu'elle voit que ton dinosaure est beaucoup trop loin de ton personnage, elle va te faire rapatrier ton personnage à côté de ton dinosaure, rapatrier à côté de ton.
Ah, il faut que tu surveilles ton dinosaure, quoi. Hein,
voilà.
Faut le garder un peu en laisse.
Donc, il faut aller vite, mais pas trop. Faut savoir garder, j'arrive pas à le dire, celui-là. Il va falloir, bref.
Vous pouvez peut-être nous parler de ce qui est dans les tuyaux, là, pour très bientôt. Je crois que vous avez trois jeux prêts à sortir.
Alors, trois jeux qui sont sortis. On a trois jeux de cartes qui viennent de sortir. Trésoro, Troupeau et Suspecto, trois jeux de cartes. Et on en a deux qui arrivent plus tard.
Alors,
ils seront plus tard, mais pas vraiment plus tard pour nos auditeurs. Ouais. Tu te rappelles ce qu'on s'est dit?
Alors, donc, on en a trois.
On voyage dans le temps ici.
On va la refaire.
Trois qui sont sortis.
Il y en a trois qui sont sortis pour Cannes. Ouais. Qui sont donc Trésoro, Troupeau et Suspecto. Et il y en a deux qui arrivent très prochainement.
Très prochainement. Donc, on a Odyssée Alisenko de Pierre Thomou, illustré par Anita Schmidt, et qui est un premier jeu d'observation et de déduction sur le thème des contes. Et on a Combomino.
Encore en haut.
Encore en haut, ouais. C'est une année en haut, là. Jeu de Flavien Dauphin, illustré par l'ultra talentueuse Margot Renard. Quand on parlait d'illustration jeunesse, pour ceux qui connaissent Les Larmes du Yokai, c'est l'illustratrice. Et c'est un jeu de placement de tuiles. Voilà, hyper malin, avec un peu de foil qui brille. Ça va beaucoup plaire.
Pour faire briller les yeux des enfants aussi.
Et des grands. Et des grands.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de particulièrement attrayant autour de ces jeux-là? Qu'est-ce qui vous a séduit en particulier dans ces jeux?
Alors, Odyssée, c'est un jeu à partir de 5 ans. Et ce qui est absolument fabuleux dans ce jeu-là, c'est le principe, c'est qu'on va reconstruire des contes. Donc, on a 6 contes à l'intérieur du jeu. Et donc, on va choisir un des contes. Et l'idée, c'est qu'on va reconstruire une grande image qui va être constituée de plusieurs tuiles. Et cette image va, une fois qu'elle sera terminée, va raconter l'histoire du conte. Donc on va aller pas à pas dans le conte. Donc par exemple, on va jouer avec Aladdin, et donc tuile après tuile, on va raconter l'histoire d'Aladdin jusqu'à reconstruire l'image complète qui va faire une sorte de BD d'Aladdin.
D'accord.
Et pour ça, on va commencer par la première tuile, et celle-ci va amener à aller chercher la deuxième, et ainsi de suite. Et pour passer d'une tuile à l'autre, on va avoir soit des petits défis d'observation où il va falloir regarder la tuile qu'on vient de poser et puis chercher dans les autres si on trouve le même personnage ou le même objet, ou alors des tuiles de déduction où il se passe quelque chose dans l'histoire et une des autres des tuiles restantes va permettre de résoudre le problème qui se passe dans l'histoire. Donc on va progresser comme ça tout au long de l'histoire, et donc ce qui est magique, c'est ce côté progressif et de construction d'image. Et en même temps, il y a le côté, ce qu'on disait tout à l'heure, on plonge un enfant dans une histoire et dans dans quelque chose qu'on va partager avec lui. Et donc c'est un jeu qu'on peut jouer tout seul, c'est un jeu qu'on peut jouer avec ses parents, avec ses copains, avec qui on veut. Et on va voilà, et on va y avoir six histoires, six contes à l'intérieur, enfin six histoires inspirées de six contes à l'intérieur du jeu. Et c'est comme une espèce de petite escape game de chaque chaque conte. Mmh. Voilà. Et c'est fabuleux et c'est illustré. Alors bon, peut-être qu'on n'est pas les meilleurs pour parler de nos jeux parce que on les aime beaucoup, mais voilà, l'illustration qui a été faite par Anita Schmidt est juste à tomber par terre et il est le jeu est génial. L'auteur a fait un boulot de dingue et les illustrations sont fabuleuses.
Okay. Donc ça, tu as dit, c'est
Odyssée Alisenko.
Non, vous êtes les meilleurs pour parler de vos jeux, pas forcément les plus objectifs, mais vous êtes les meilleurs, c'est incontestable.
Et donc l'autre qui sort aussi.
Et donc Combomino, c'est un jeu à partir de 6 ans en format Potion Express, pour ceux qui voient Potion Express, qui a été illustré par Margot Renard et fait par Flavien Defin. C'est un jeu de placement de tuiles où on va être des ninjas, il va falloir réaliser des combos, soit le combo du serpent, soit le combo du taureau. Donc le combo du serpent, c'est un combo en ligne, horizontal ou vertical. Si on arrive à placer 4 fois la même forme, on va avoir un point. Si on place 4 fois la même couleur, on va avoir un point. Si on arrive à faire forme et couleur, on va avoir 3 points. On va compléter son plateau en allant chercher à chaque fois deux cartes. Si on arrive, on va avoir des cartes joker qui vont avoir des effets de ninja de fou, puisqu'ils vont nous permettre de remplacer n'importe quelle couleur et forme. Et on a d'autres jokers qui vont nous permettre de faire des combos de trois cartes au lieu de faire des combos de quatre cartes, pardon. Donc voilà, c'est un jeu hyper facile d'accès. À partir de 6 ans qui est hyper fun à la fois pour les enfants, mais moi j'y ai joué des tonnes de fois avec le proto. Voilà, c'est vraiment aussi un jeu pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde, quoi. Il y a pas de problème.
Très bien. Je note quand même que votre catalogue, il est quand même assez conséquent. On démarre avec 8 jeux sur 2025. Là, on va en avoir déjà 5 d'ici arrivée mi-2026. Vous n'avez pas peur de noyer le marché déjà d'une part?
Alors
vous noyer dans le marché, toi, à pas avoir une proposition forte.
Alors le fait d'avoir 8 jeux au démarrage, ça c'était vraiment c'était volontaire. C'est-à-dire que c'était pour nous c'était important d'asseoir une gamme et de pouvoir proposer des jeux différents pour des tranches d'âge différentes. Et dans le jeu enfant. Je pense que c'est important de proposer une gamme et d'être reconnu comme étant une gamme. Et autant sur les jeux plus adultes, tu peux passer d'un éditeur à un autre parce que voilà, parce que tu vas avoir des typologies de jeux différents, etc. Autant dans le jeu enfant, c'est intéressant de pouvoir proposer une gamme et de se dire que les parents ils vont avoir confiance. Voilà, en une gamme là, et ils vont y revenir. Genre, on a tous, alors je sais pas si vous êtes parents, mais moi je suis maman. Quand mes petits loups ils étaient petits, je suis retournée chez Abba plusieurs fois parce que j'avais confiance. Je suis retournée chez Dry parce que j'avais confiance, etc. Et donc c'était important pour nous de proposer une gamme et d'avoir ces 8 jeux différents là. Pour la suite, on n'ira pas au-delà. De 5 ou 4 jeux par an. C'est voilà, ce sera les 8, c'était vraiment pour le démarrage et après on n'ira pas au-delà parce que comme tu dis, ça sert à rien d'inonder le marché et on veut aussi que nos jeux soient plus pérennes. Et c'est la chance que t'as aussi dans le jeu enfant, c'est que tes jeux ils ont une durée de vie, alors on l'espère et on le souhaite pour les nôtres, qui est quand même beaucoup plus longue. Parce que
les enfants, ils changent. C'est plus les mêmes.
Voilà, déjà, ils grandissent. Et puis, voilà, t'installes... quand un jeu est connu et qu'il est bien installé, il peut rester plus longtemps, peut-être.
Et du coup, vous allez faire comment? Parce que là, vous allez être à 5 à la mi-année, quand même.
Bah, là, on est à 5 à la mi-année, mais c'est aussi de la faute des auteurs. Hein. Voilà, voilà, ah, je voulais le dire.
C'est ce qu'on voulait, hein,
voilà.
Hein, lesquels, on veut des noms.
Ils sont embêtants à nous proposer des super jeux. Parce que c'est très compliqué de choisir. Donc on va être à 5 à la mi-année. On devait s'arrêter là. Et puis on a deux auteurs plein de talent, en tout cas en devenir, Corentin Lebras et Théo Rivière, qui nous ont proposé un jeu, et on s'est regardé avec Nathalie, on s'est dit, c'est impossible de pas l'éditer celui-là, et on a voulu l'éditer avant que quelqu'un d'autre le fasse. Et donc voilà, cette année on aura un sixième jeu.
Vous ferez qu'un sixième jeu du coup pour le deuxième semestre, en
ouais,
gros.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais, mais pour nous c'est déjà beaucoup, hein. On n'avait pas vraiment pas prévu ça, c'est on devait être à 5. C'est un coup de cœur de Vichy.
Ouais.
C'est un jeu qui est complètement magique à nos yeux, en tout cas, et aux yeux des enfants avec qui on y a joué et des familles avec qui on a joué. Et donc voilà, on a voulu le capturer rapidement. Donc c'est de leur faute, voilà. Corentin, Théo, voilà, vous avez fait faire des moins bons jeux.
Mais donc, leur dis pas ça.
Aujourd'hui, vous êtes plus obligé d'aller chercher les auteurs, hein, comme c'était le cas un petit peu au début, si j'ai bien compris. Là, c'est plutôt les auteurs qui viennent à vous.
Ah bon, on sollicite toujours nos anciens, hein, entre guillemets, parce qu'on est plus si anciens que ça. Oui, de toute façon, les auteurs, ils viennent. Ouais, c'est vrai qu'ils viennent, mais je pense que pour eux, ça, c'est aussi une nouvelle maison d'édition, c'est une nouvelle façon de travailler. Voilà, et puis c'est bien, ça fait un nouvel endroit où tu peux partager tes jeux. Donc,
se mentir, ça fait écouler des jeux. Hein. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Je sais pas si vous auriez peut-être une dernière chose à ajouter avant qu'on clôt l'émission.
Non.
Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire.
Ouais, non, merci beaucoup de nous avoir proposé cette invitation. C'était un plaisir.
On est hyper fiers.
Ouais, on est hyper fiers de passer sur ce podcast. Donc merci.
Eh ben, plaisir partagé. Et donc il nous reste maintenant
à se dire au revoir,
voilà, à se quitter. Mais peut-être qu'on se recroisera dans les allées du Fige.
Non.
Donc, chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une nouvelle interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien.